Bonjour à tous. Alors nous avons passé une première couche hier. On va essayer de passer la deuxième ensemble. Et donc, on vous invite à rester assis, mais on va essayer de se mettre vraiment dans la présence du Seigneur. Pendant cet enseignement, cette exhortation, nous avons vraiment une pensée particulière pour ceux qui, parmi vous, ont été vraiment blessés dans leur corps, dans leur cœur, sur ces questions de la sexualité. Ça peut réveiller des choses qui sont délicates, douloureuses. Nous ne voulons surtout en rien agiter cela. Nous voulons simplement que ces paroles, on vous doit d'être en vérité. On ne peut pas faire, là encore, un propos bisounours. Vous êtes trop respectable pour cela. Mais c'est important qu'on puisse aller un peu comme, entre guillemets, un peu un chirurgien, au cœur de la problématique de la sexualité, pour qu'elle guérisse, pour que dans nos vies elle guérisse, pour qu'elle soit belle, pour qu'elle soit surtout au début de votre vie adulte, qu'elle soit magnifique, que ce soit vraiment un tremplin, ou en tout cas une étape très importante pour chacun de vous, et particulièrement pour ceux qui ont été blessés, heurtés. Donc, hier, nous avons parlé du sacrement de mariage. Nous avons parlé du mariage et du mystère du mariage. Et combien le salut du Christ vraiment est opérant pour nous aider à réaliser ce à quoi nous aspirons profondément. Il va en être de même dans le domaine qui est comme la symbolique, on va le voir, du mariage, qui est d'être une seule chair. C'est dit à la Genèse, c'est confirmé très clairement par Jésus. Et donc, comme on le disait encore hier, ça veut dire que cette loi originelle est une loi éternelle qui est inscrite dans l'histoire et donc qui est une loi qui nous rejoint, entre guillemets, chacun. Et cette catéchèse de Jean-Paul II, c'est la théologie du mariage, la théologie du corps, la théologie de la sexualité. Et un grand ami de Jean-Paul II a dit, quand cette catéchèse sera comprise, ce sera une bombe pastorale. Mais il dit, quand cette catéchèse sera comprise dans l'Église, ça sera une bombe pastorale. C'est notre expérience depuis près de 35 ans, où nous nous appuyons tout notre ministère d'annonce d'évangélisation sur cette catéchèse de Jean-Paul II. On en parle beaucoup de cette catéchèse. On parle beaucoup de la théologie du corps. Il y a les forums Waouh, il y a un certain nombre de livres qui ont développé tout cela. C'est encore peu connu, et là où il est connu, c'est surtout autour de la théologie du corps et de la vie. Mais sur la théologie de la sexualité, c'est moins connu, et surtout sur la théologie de l'œuvre du Christ pour guérir la sexualité, c'est encore moins connu. Et c'est en cela que Cardinal Scola disait que ce sera une bombe pastorale. Parce que, comme on disait hier, qu'il n'y a pas besoin d'être catho ou d'être chrétien pour désirer réussir son couple, encore plus, il n'y a pas besoin d'être catho ou d'être chrétien pour vouloir vivre une belle sexualité. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et on pense bien sûr particulièrement aux femmes qui se sentent dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, profondément salies, bestialisé, irrespecté. Et donc, une des clés de l'enseignement de Jean-Paul II, qui pour nous, en tant que de jeunes fiancés, nous avons découvert cela, la catéchèse venait de sortir, traduite en français, c'était en 80-81. Quand Jean-Paul II, relisant le verset 27 de la Genèse 2, avec le cri d'Adam, « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Cette exultation qui habite le mariage, mais qui est l'élan fondamental de l'attirance de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme pour une immense joie. Et l'intensité, je dirais, de l'amour qui s'exprime par l'étreinte et par l'union des corps. Et comme le cœur est toute la symbolique du mariage, il n'y a pas de mariage sans une seule chair. C'est pour ça que Jean-Paul II utilisera un mot extrêmement fort qui a été un électrochoc pour nous. En parlant que la langue de la sexualité, le dialogue sexuel entre les époux, tel que Dieu l'a voulu, c'est pas tel qu'on le relit aujourd'hui, c'est tel que Dieu l'a voulu. C'est une langue liturgique. Liturgique. Qu'est-ce qu'une liturgie? On relit le Concile Vatican II. La célébration visible d'un mystère invisible. La messe est la célébration visible du mystère de notre salut et de la Pâque du Christ. L'union d'un homme et d'une femme dans le dessein éternel, éternel, pas simplement originel. C'est une liturgie, c'est la célébration du mystère nuptial. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Qu'est-ce qu'un couple? C'est l'image de Dieu. Un homme et une femme qui s'unissent selon le dessein de Dieu célèbrent l'image de Dieu qui est en eux. Et ils expriment par leur corps, par leurs dons, par leur amour, par leur sens, par la sensualité, par le désir, par l'amour, par le don, l'intensité atomique de Dieu dont on parlait hier. C'est une image, bien entendu. Donc, quand Adam exulte devant Ève, il exulte, il n'est pas seulement dire, tiens, elle est bien ma copine, tiens, elle est bien roulée, je vais être bien passer un bon moment avec elle. Ça, c'est pas une mesure théologique. La mesure théologique de l'amour et de la vie conjugale, c'est l'intensité de la Trinité. Et c'est pour cela que l'énergie sexuelle qui habite chacun de nous, ce désir, cette aspiration, notamment cette énergie que vous découvrez depuis le début de votre adolescence et qui bouscule tellement de choses, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et donc, il faut vraiment prendre, avant d'aborder d'autres sujets, que c'est vraiment la norme. La norme, on ne fait pas des mathématiques, mais ça veut dire que c'est la mesure générale, comme on disait encore hier, hein, la norme du poisson, c'est d'avoir des branchies, de vivre dans l'eau. Voilà, et s'il veut vivre dans l'air, ben, il est mal. Eh bien, la norme de la sexualité, le but de la sexualité, c'est de célébrer Dieu et de rendre gloire à Dieu pour l'image de Dieu qui est en nous et que nous représentons. Jean-Paul II disait, à travers cette langue de la liturgie, dans la sexualité, elle élève le pacte conjugal aux dimensions du mystère, le grand mystère dont parlait Paul. Et donc, Jean-Paul II faisait une analogie très précise en disant, quelle est la liturgie de l'Église? C'est la messe. Quelle est la liturgie du couple? C'est son don des corps et son une seule chair. Et c'est notre job. C'est notre mission en tant que couple. Ah, il y en a qui le découvrent au début de leur mariage, ils sont bien heureux de le savoir. Il y en a qui le découvrent, comme on l'a dit hier, après 40 ans. Mais vous savez, les ouvriers de la première heure et de la 11e heure seront payés du même salaire, c'est-à-dire la même exultation. C'est pour cela que quand un prêtre vient bénir une maison, il bénit la maison, mais il n'y a qu'un seul meuble qu'il bénit, c'est le lit conjugal. Parce que c'est l'autel du couple. C'est notre autel propre. Donc, notre mission, c'est de rendre gloire à Dieu. Dans cette communion conjugale, bien sûr de l'âme, bien sûr du cœur, comme pour la messe. Si on ne fait que les gestes de la messe, mais que notre cœur et notre âme ne vivent pas au tempo de l'évangile, de la foi, la messe, elle est creuse, c'est nul. La messe n'a de sens dans son incarnation, dans ses sens, au niveau de l'encens, au niveau des chants, au niveau des gestes, au niveau des paroles, n'a de sens qu'au regard de la foi. Et de la même manière, la sexualité n'a de sens, elle n'est liturgie, elle n'est qu'exultation, qui dure, qui croit. Pour 50 ans et même plus, je voulais insister que c'était plus, hein, hier, parce que c'est d'abord une communion de cœur et d'âme. Et donc parce qu'il y a une communion de cœur et d'âme, alors ça s'incarne, parce qu'on est dans une religion d'incarnation. Et plus encore, Jean-Paul II va insister sur, entre guillemets, excusez-moi, la fonction de la sexualité. Quand un homme et une femme s'aiment et sont en profonde communion, ils se découvrent l'un l'autre, mais aussi ils se révèlent l'un l'autre. Jean-Paul II, le une seule chair des époux leur permet chaque fois de se reconnaître réciproquement et comme pour la première fois de s'appeler par leur nom. Faire l'amour pour un homme et une femme, selon le dessein de Dieu, c'est se découvrir. C'est découvrir son identité. C'est découvrir qui on est. Et en plus, il y a Jean-Paul II, mais c'est incroyable ces paroles-là qu'il a. Écoutez bien. Cette sexualité permet, il ose les mots, de se pénétrer l'un l'autre, appartenant spirituellement l'un à l'autre. Au travers de cette pénétration corporelle, sexuelle, nous appartenons davantage l'un à l'autre. C'est d'ailleurs ce que reprendra saint Paul. Nous faisons vraiment un avec celui avec qui nous faisons l'amour, pas simplement au niveau des corps. C'est pour ça que toute sexualité, tout acte sexuel a une répercussion spirituelle et psychologique très puissante. Donc c'est une nourriture. C'est une découverte. Jean-Paul II le dira, c'est même un soin et une guérison. C'est un soin et une guérison. Et il va dire quelque chose de très important. Et ça, il faut bien que vous l'entendiez. C'est que derrière toute énergie sexuelle, toute, ça veut dire même les plus dévoyés, derrière l'expression de l'énergie sexuelle qui nous habite, s'exprime en nous le désir originel de la Trinité et de l'image de Dieu qui est en nous. C'est pour ça que nous disons depuis des années, les pornos, les sites roses, tout ce que vous voulez, etc., etc., c'est une preuve de l'existence de Dieu. C'est une preuve que nous aspirons qu'à une chose, c'est à revivre cette bénédiction originelle, cette vocation originelle d'être à l'image de Dieu. Et que quand derrière même les plus fébriles au niveau des sexualités les plus dévoyées, c'est une recherche de la communion trinitaire. Parce que c'est notre génétique. Bien sûr, c'est complètement dévoyé. En tout cas, on vous interpelle, chacun de nous, dans nos désirs sexuels, dans nos attirants, dans notre besoin d'aimer, de donner de l'amour, de recevoir l'amour par notre corps, dans notre cœur. C'est le désir de Dieu qui s'exprime. C'est là la clé. C'est la clé de nos vies. Quand on n'a pas compris ça, on court derrière comme un savon qu'on essaie d'attraper et qu'on n'attrape jamais. C'est la clé de notre vie. Combien ont résolu l'équation de leur vie parce qu'ils ont compris ça. Quand je me masturbe, quand je consulte un site porno, quand je cours derrière les filles, quand je veux me faire un mec par soir, c'est Dieu que je cherche. Et je ne le sais pas. L'énergie sexuelle illustre, parce que sinon nous, on ne peut pas l'arracher, que nous avons tellement besoin d'amour. On a tellement besoin de donner. C'est pour ça que souvent, il y a des quêtes pathétiques. Et notamment dans les vies de jeunes, d'adolescents, etc., où cette énergie nous bouscule, nous fait perdre nos repères, on comprend pas. Et c'est très déstabilisant. Parce que le péché, comme on va voir, a mis un tel boxon là-dedans.
Alors, comme le dit Alex, dans le don des corps, c'est le lieu où je vais m'approcher le plus proche du mystère de l'autre. Et ce que je cherche dans le don des corps, c'est à célébrer de façon concrète l'union des âmes. Et ce qui nourrit dans une relation sexuelle, c'est la relation d'âme à âme. Et c'est ça qu'on recherche. Parce que quand on s'approche du mystère de l'autre, il y a cet instant d'éternité où on sent que, comme disait Benoît XVI, nous atteignons la béatitude à laquelle tend tout notre être. Ces moments de communion où on a le souffle couplé de la beauté, de cette intensité d'amour qu'on vit. Et c'est ça qu'on recherche. Sauf que le problème, c'est qu'entre cet idéal de Genèse 1 et 2 et notre réalité, il y a eu la grande catastrophe de Genèse 3. Cette rupture avec Dieu, elle nous a marqués aussi dans nos corps. Elle a aussi touché nos êtres. Et elle nous a touchés tellement profondément qu'elle a transformé notre regard. Il y a une petite phrase dans la Genèse qui conclut les premiers chapitres de la création. Ça se termine par cette phrase bizarre. Ils étaient nus l'un devant l'autre et ils n'avaient point honte. Et dès qu'il y a la chute, ils se couvrent avec des feuilles de figuier. Pourquoi ? Parce que la honte, elle vient du fait que le regard de l'autre est menaçant pour moi. Donc le regard de l'autre me nuit. Ça, c'est comme ça étymologiquement. Ne pas avoir honte, c'est qu'il n'y a pas de danger, que le regard de l'autre ne m'atteint pas, ne me blesse pas. Parce qu'il y a une transparence totale entre le corps et le cœur. Et quand je regarde l'autre avec un cœur pur, je vois ce qu'il est dans son humanité. Mais quand je regarde l'autre avec un regard perverti, je ne vois que son sexe, je ne vois que sa chair, je ne vois qu'un objet de plaisir. Et la relation est dévoyée. Et le regard devient dangereux, et donc jaillit la honte, et donc le besoin de se cacher. Et c'est ce qui fait le drame de nos relations humaines, c'est que nous avons du mal à communiquer de cœur à cœur. Nous avons du mal à nous comprendre, nous nous blessons. Le regard de l'autre nous heurte, ses propos nous heurtent, et réciproquement. Donc ça veut dire qu'il y a, en particulier dans la sexualité, qui est un langage du corps très profond, qui vient des racines de notre être. Et vous le savez très bien, on doit prendre du temps dans notre éducation pour apprendre à maîtriser notre corps, pour poser des gestes de tendresse qui soient beaux. Les adolescents se caractérisent souvent par des gestes de tendresse un peu désordonnés, désarticulés. Ils veulent vous faire un câlin et ils vous serrent tellement fort que vous avez mal. Ils veulent vous dire qu'ils vous aiment et vous sortent une agressivité. Parce que juste, ils n'arrivent pas à ajuster. Ils sont dans cette phase où le corps est en train d'apprendre à dire la tendresse de façon pure, juste, exacte. Donc ça veut dire que, au départ, corps et âme étaient parfaitement transparents. Ce que je disais avec mon corps, c'était ce que mon cœur pensait. Et aujourd'hui, la sexualité, à cause du péché, est blessée, est tordue, et donc mon corps peut mentir. Mon corps peut poser des gestes que mon cœur ne pense pas, ou peut s'engager dans une relation alors que mon cœur n'y est pas prêt. Et quand il y a comme ça mensonge à l'intérieur entre mon corps et mon cœur, eh bien je me blesse, je blesse l'autre. Et je me rends compte beaucoup plus tard, parfois tout de suite, mais souvent plus tard, que cela porte un fruit d'amertume. Vous savez, dans la Bible, quand on dit « ils avaient les dents agacées par des raisins verts », ça veut dire quoi, ces raisins amers ? C'est qu'en fait, on pose des gestes qui, sur le moment, sont satisfaisants, sur le moment, nous font plaisir, nous font du bien, mais dans un deuxième temps, quelque part, porte un fruit qui est amer, qui est douloureux. Cette dureté de cœur dont Jésus parle en Matthieu 19, c'est ce péché qui nous a rendus raides, qui a rendu nos corps opaques. Et nous avons tout ce travail de conversion à faire pour rendre nos corps capables de dire la vérité de nos cœurs. Et quand nous sommes dans la vérité, alors la relation est belle. Alors elle porte du fruit. Et c'est tellement important qu'il y a dans cette sexualité un combat spirituel intense. Bien sûr, facile à comprendre. Mettez-vous à la place du Satan.
Si on peut se permettre, hein, on ne peut pas être hérétique, mais c'est juste une image de style pour mieux comprendre.
Si la sexualité est le lieu même où Dieu révèle son visage par l'union de l'homme et de la femme, qui se donne dans l'amour et la communion, la première chose à atteindre et à détruire, c'est la sexualité. Parce qu'on est sûr de toucher l'image de Dieu. Eh bien, regardez la stratégie du malin. Vous la voyez étalée partout. Cet érotisme pégueux, comme on dit dans le midi, qui affleure partout. Où on prend les gens pour des choses et des objets de plaisir. Si c'est pas la preuve qu'il y a un enjeu spirituel, alors je sais pas ce que c'est. Donc cette dureté de cœur, c'est notre péché. Il a blessé, mais il y a un combat spirituel à engager pour faire de nos sexualités une célébration de notre amour qui rende gloire à Dieu et qui soit manifestation de Dieu. Vous savez que nos frères juifs, qui avaient un très grand sens de la liturgie de l'amour, ne finissaient pas une fête liturgique sans célébrer jusque dans leur sexualité la fête en question. Parce que c'était la continuation de la liturgie domestique, et on célébrait Dieu dans l'action de grâce, en faisant l'amour. C'est donc d'un enjeu spirituel incroyable. Et c'est donc aussi pour ça qu'il y a autant de combats, autant de difficultés et que nous avons à nous ajuster. Alors maintenant, regardons ce que saint Paul dit pour essayer de trouver ces chemins de conversion pour éduquer notre corps, éduquer notre sexualité. Alors je vais tout de suite vous rassurer. Comme pour la plupart des choses de la vie de couple, le premier jour, les premières années ne sont pas les plus belles. C'est avec le temps qu'on apprend à goûter et aller jusque le bon vin de Cana, comme on disait hier. Donc ça prend du temps, il faut être patient. Je vous le dis parce que c'est normal qu'au début ce soit un peu chaotique. Parce qu'il faut du temps pour apprendre à ajuster son corps et ajuster avec l'autre. Alors écoutons saint Paul pour essayer de comprendre vers où il veut que nous... Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil évangélique pour avancer dans cette conversion du corps? 1 Corinthiens 7. La femme ne dispose pas de son corps, mais son mari. De la même façon, le mari ne dispose pas de son corps, mais sa femme. Donc, dit saint Paul, ne vous refusez pas l'un à l'autre. On parle bien du mariage, hein. Ne vous refusez pas l'un à l'autre. Il y a deux conditions pour se refuser. Sauf, un, si c'est d'un commun accord et pour un temps, court, pas longtemps. Donc après, on dira plus avec ça que saint Paul n'aime pas la célébration de la sexualité. Hein, parce qu'il dit, ok, pas longtemps. Hein. Deuxièmement, si on se refuse à l'autre, c'est pour faire quoi? Je lis, hein, ça vient pas de moi. Hein. Afin de vaquer à la prière. Alors je vois bien un couple qui dit non, pas ce soir, allons prier tous les deux. Donc ça veut dire quoi? Il ajoute cette phrase, de nouveau soyez ensemble de peur que Satan n'en profite pour vous tenter. Pourquoi? Petit flashback à la Genèse. Genèse 3. Tous ceux qui ont commenté ces versets disent que le serpent a tenté Ève parce que Adam n'était pas à ses côtés. Il était parti se balader ou il roupillait après l'amour. C'est ça les commentaires des textes. Donc ça veut dire que quand il y a séparation de l'un et de l'autre, le malin a vite fait de s'insinuer. Et donc si jamais ma sexualité, mon don des corps à mon conjoint et la nourriture qui travaille, qui construit, qui fait notre communion, alors je dois honorer cet engagement à me donner. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit le jour du sacrement de mariage ? Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement, etc., etc. Je me donne à toi. Autrement dit, je m'appartiens plus, je suis à toi. Et toi, tu es à moi. Bien sûr, je précise tout de suite, dans une vision trinitaire, c'est-à-dire une communion, pas une fusion. Il n'y en a pas un qui phagocyte l'autre. Une communion qui respecte chacun, mais en même temps, on s'appartient l'un l'autre. Et donc, nous allons trouver là les deux racines du péché majeur de la sexualité. Premier péché. Je ne me donne pas, je prends. Je saisis. L'autre est à ma disponibilité, pour mon plaisir, quand je veux, comme je veux. C'est plutôt le péché de l'homme, mais pas exclusivement. Et l'inverse. Je ne me donne pas à toi. Ou en tout cas, allez, je me laisse faire, parce qu'il faut bien que je te laisse ça. Mais je ne suis pas dans la générosité du don. Je me retiens. Je me laisse simplement... J'accueille ton désir sexuel, mais je ne suis pas dans la relation. Je ne suis pas dans le don. Je ne suis pas dans la générosité. Et c'est un combat qui est plutôt celui des femmes, mais pas exclusivement. Arriver à se donner à l'autre jusque dans son corps. C'est curieux d'ailleurs, les femmes n'ont pas de mal à se donner à leurs enfants. Et jusque dans leur corps. Et Dieu sait si ça coûte d'enfanter. Mais quand on a donné aux enfants toute la journée et qu'on se retrouve le soir, il faut encore se donner à son mari. Et on n'a pas l'énergie. Et on a mal à la tête. Et on a toutes sortes de problèmes. Eh bien voilà là où le Seigneur nous attend. Ces deux combats. Accueillir, ne pas prendre et se donner avec générosité. C'est ça qui nourrit. C'est ça que nous cherchons dans la sexualité. Une femme qui se donne généreusement à son mari, il est tellement nourri que ça dure pendant plusieurs jours. Et comme disait Benoît XVI, il vit alors non le plaisir d'un instant, mais un instant qui dure et qui nourrit dans la durée et qui remplit le cœur. Et dans ce cas-là, la sexualité devient un tremplin pour notre communion, un tremplin pour notre amour.
Première étape dans cet enseignement, de se rendre compte vraiment tout le dessein si réjouissant de Dieu dans la sexualité, le pastis monumental qui a mis le péché, qui perturbe profondément notre vie intérieure, notre relation à l'autre, et tout le travail de la grâce pour justement s'apprivoiser, se respecter, se donner, ne pas prendre. C'est du taf, c'est du boulot. On y arrive, hein. Au bout de 30 ans, on a les premiers acomptes. Ça demande du temps, c'est pour ça que le mariage est long, et heureusement qu'il est long. Mais là encore, on va goûter Cana. Et c'est tout le travail dont on parle dans l'Église, traditionnellement, qui est le travail de la conversion conjugale, de la conversion sexuelle, de la chasteté, qui n'est pas la continence, qui est de travailler sur la conversion de notre sentiment et de notre don. Encore une fois, ne pas prendre mais donner, et se donner vraiment, et pas simplement concéder, au nom de notre mariage. Et c'est pour ça que on veut vous citer trois papes, deux styles très différents. Mais pour bien vous montrer qu'on n'est pas en train de vous faire du Alex et Maud dans le texte, mais que c'est bien, on essaie de se faire vraiment l'écho de la parole de l'Église dans toute sa diversité, qui effectivement, comme rarement, comme on l'a souligné hier, a défriché et compris le mystère du mariage, et comprend aujourd'hui le mystère de la sexualité, et aussi du travail de la conversion et de l'édification dans la relation sexuelle d'un homme et d'une femme, d'un mari et de son épouse, époux et épouse. On va commencer par Jean-Paul II. La chasteté enrichit le dialogue conjugal de la sexualité en le purifiant et en le simplifiant. C'est pas un beau programme, ça? Enrichi. Vous voulez une sexualité enrichie? Vous savez, il y a du pain enrichi. Il y a la nourriture enrichie. Ben, il y a la sexualité enrichie. C'est ce que beaucoup de personnes attendent en disant « Oh non, non, la sexualité chez les cathos et dans l'église, ah non, non, au contraire, ça va la réduire complètement. » C'est exactement le contraire. Ça l'enrichit. Loin d'entraîner, alors bon, c'est un peu les formules parfois un peu ampoulées de Jean-Paul II, mais loin d'entraîner l'appauvrissement des manifestations affectives, l'ascèse conjugale les rend au contraire spirituellement plus intenses et par conséquent on les enrichit. C'est pas beau ça? Une sexualité intense. Et ce travail de la conversion travaille à cette intensité. Jean-Paul II d'ailleurs dira, oubliez de vous le dire tout à l'heure, quand le cri d'Adam, vas-y l'os de mes os, la chair de ma chair, en fait le déploiement de ce cri d'exultation qui débouche sur la sexualité, la rencontre sexuelle et le dialogue sexuel, il est une seule chair, mais en fait c'est tout le cantique des cantiques. Il dit, si vous voulez comprendre toutes les harmoniques et les couleurs de la sexualité telle que Dieu la veut pour nous, lisez le cantique des cantiques. Un cantique, un poème à la fois érotique et spirituel. C'est cela que Dieu veut pour nous. Mais ça ne sera pas comme ça. Parce qu'il y a eu la friture sur la ligne avec Genèse 3 et le péché. Et donc pour retrouver ce don originel, cette grâce originelle, il nous faut travailler la conversion. Allez, Benoît XVI. Alors lui, surtout, il est bien dans le tel esprit, Benoît XVI, du côté un peu très sage, très timide, un peu style 19e, Mozart, son piano à queue, ses chats, etc. Hein, d'accord? Vous avez ça un peu derrière? Écoutez un peu. Oui, l'éros peut nous élever en extase vers le divin. C'est vrai qu'à des moments, on se dit, c'est lui qui a dit ça? Ben oui, c'est lui. Dans la mesure où les époux s'engagent sur un chemin de montée, de renoncement, de purification et de guérison. Tu veux goûter l'extase au travers de l'éros? Alors je t'invite à te convertir et à guérir tes blessures et à guérir ton péché. Alors tu goûteras vraiment le ciel. Parce que c'est le don de Dieu, c'est la volonté de Dieu sur chacun de nous. Après chacun fait comme il veut. Hein. Mais nous, on a choisi un chemin. Hein. Et c'est celui de Dieu, c'est celui que Dieu veut pour chacun de nous. Et cela donne à ce moment-là, dit Benoît XVI, à l'homme et à la femme, non pas le plaisir d'un instant, mais l'avant-goût du sommet de l'existence. L'avant-goût du sommet de l'existence. De la béatitude vers laquelle tend tout notre être. Vous voulez goûter la béatitude dans la vie conjugale? Accueillez la puissance du Christ. Combien d'ailleurs nous disons ça à des couples qui se préparent au mariage, dont 95% n'ont pas la foi, connaissent pas Jésus, etc. Ils font ça pour faire plaisir à la grand-mère ou parce que voilà, sorti de l'église, c'est toujours plus beau que sorti de la mairie quand même. Et on leur dit, écoutez, vous n'avez rien à faire de Jésus, ok, mais est-ce que vous voulez vivre une belle sexualité? Ouais, comment on fait? Ben, accueille Jésus dans ta vie et tu verras, elle sera transformée. Et puis on rentre aussi dans le concret. Et là, effectivement, t'as quasiment toutes les filles qui pleurent parce qu'elles sont fait sauter par leur mec et que leur désir profond, c'est pas d'être sauté, c'est d'être aimé. Pape François. L'union sexuelle, vécue de manière humaine et sanctifiée, est un chemin de croissance et de grâce pour les époux. Un don de Dieu avec une valeur sacrée et inviolable. Un émerveillement du cœur qui fait dire aux époux, l'existence humaine est un succès. C'est ce que, croyant ou incroyant, encore une fois, nous attendons véritablement. C'est vraiment de faire de notre sexualité une grande réjouissance, un vrai don d'amour, mais aussi un profond respect. Alors, c'est vrai que François, notamment dans le texte de Amoris Laetitia, le texte qui avait paru en 2016, après les deux synodes sur la famille, dit des choses magnifiques sur la sexualité. Mais d'abord, alors au style François, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais si François, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas dire ce qu'il... Benoît XVI, il était très empoulé, très arrondi, et tout, voilà. François, lui, il dit, il est cash. Donc d'abord, en son premier texte, il étrigue l'Église sur la manière dont très souvent il a parlé de la sexualité. Il dit, le temps du jansénisme, c'est terminé. Hein. Le jansénisme, c'était, on tolérait la sexualité parce qu'il y avait la fécondité. Mais la sexualité, elle doit bien sûr déboucher sur la vie. Mais d'abord, elle l'est simplement parce que les époux sont époux. Et il est très important d'enseigner la beauté, le don de Dieu, l'émerveillement de Dieu devant la sexualité, comme don des époux. Et dans la mesure où les époux se respectent profondément, c'est une sexualité qui est sainte. C'est un don de Dieu. C'est pour ça que le titre de l'enseignement de ce jour, c'est l'évangile de la sexualité. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un don de Dieu. D'autre part, il développe vraiment que le désir sexuel et le don sexuel ne peut pas être, dit-il, objet de mépris. Il parle même de l'érotisme le plus saint. C'est le premier pape qui utilise le terme. Même Jean-Paul II, champion du monde avec sa catéchèse, là, il parlait pas d'érotisme. François a parlé d'érotisme le plus saint. Même lié à une recherche de joie et de plaisir partagé, est un émerveillement. Il est l'expression du don conjugal des corps, et ce don est d'une très grande dignité. Un pape qui nous dit ça. Et donc, il nous redit, il redit à toute l'Église, en reprenant les paroles de saint Paul. Je veux que le mariage soit honoré de tous, et le lit nuptial sans souillure, dans la lettre aux Hébreux. Je répète ce que disait Paul, ne vous refusez pas l'un à l'autre. Donc, il est important d'entendre que la dimension érotique de l'amour n'est pas pour l'Église un mal permis ou une tolérance. Au contraire, la sexualité embellit la rencontre des époux, elle est dans le signe, elle en est, il reprend l'expression de Jean-Paul II, une liturgie.
Alors, quelques éléments sur le chemin de conversion que nous avons à emprunter. Oui, d'après le pape François. D'abord, une première chose dont il faut prendre conscience, c'est que ce dessein merveilleux que le Seigneur a confié à la sexualité est aussi un lieu fragile. C'est un lieu qui peut engendrer la vie. C'est un lieu qui peut nous nourrir, mais c'est aussi un lieu qui peut nous blesser très profondément. Vous savez tous que le viol est un crime dans le droit français. Un crime, ça veut dire que quelque part, il abîme l'être, il détruit. Et donc nous pouvons faire de notre sexualité un lieu de croissance pour l'autre, pour moi, ou un lieu qui blesse et qui abîme vraiment très profondément. En même temps que je dis ça, je veux tout de suite dire avec espérance et certitude, parce que l'espérance chrétienne, c'est pas un espoir, c'est une certitude, que même ces blessures-là, Jésus peut les guérir et les apaiser. On n'efface pas une blessure, mais on peut la guérir. Et faire de cette blessure même, parfois, un lieu de grâce, un lieu de charisme pour les autres. Un lieu où le Seigneur va passer. Donc, n'ayons pas peur de reconnaître avec humilité les blessures que nous avons pu avoir dans notre corps. Les blessures que nous avons pu faire subir aux autres dans notre corps. Ou dans leur corps. Et demandons au Seigneur de passer sur ces blessures. Il guérit. Nous l'avons vu des dizaines et des dizaines de fois. Nous en sommes témoins et nous vous le disons. Il n'y a pas une souffrance que le Seigneur ne peut pas rejoindre. Et c'est à cause de cette espérance-là que nous savons que la conversion de nos sexualités, même si elles ont été blessées, sont des chemins de lumière extraordinaires et dont le monde a tellement besoin aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous allons chercher à convertir nos cœurs pour que nos corps s'ajustent. Vous avez bien compris ce lien entre l'intérieur de ce que je vis et l'extérieur. Et donc, je vais travailler à ne pas faire de l'autre un objet de satisfaction égoïste. Ça passe par quoi ? Ça passe par les mots, parler, dire, exprimer son ressenti. Quand on discute avec des couples, il y en a énormément qui n'ont jamais parlé de la sexualité entre eux. Et aujourd'hui, la société vous apprend, on s'aime, on se désire, on parle pas mais on baise. Excusez-moi l'expression. La sexualité est un langage très puissant, mais il exige auparavant l'échange par les mots, par les ressentis, par les sentiments. Alors je sais bien que les femmes sont un peu suréquipées sur la question et les hommes un peu sous-équipés sur la question. On est d'accord. Mais nous sommes engagés à nous donner l'un l'autre, c'est aussi dans le partage que l'on prépare la relation sexuelle. C'est comme un iceberg. Si jamais toute la vie n'est pas irriguée d'amour et de tendresse, alors notre relation sexuelle ne peut pas célébrer quelque chose qui n'existe pas. Donc il nous faut nous y préparer par un travail laborieux de partage, d'expression, de service, d'attention, de tendresse. Et c'est quand on a travaillé à cette relation intime entre nous qu'à ce moment-là, la relation sexuelle devient la célébration et comme l'épicentre de tout ce qu'on a vécu en couple avant et qu'on va vivre après. Et donc, ça veut dire que le monde est mensonger. Sur cette question-là, c'est un des plus grands mensonges de tous les temps. Et nous n'avons pas peur de le dénoncer parce qu'il faut le dire. La satisfaction du plaisir de partenaire en partenaire n'est pas le bonheur. C'est un chemin qui abîme. Et comme disait Jean-Paul II, une passion qui, au lieu de s'apaiser, s'attise encore comme un feu qui consume et qui jamais n'est satisfait, ne s'éteint, jamais ne s'apaise. Parce qu'il y a une espèce de recherche qui n'a pas de sens. Et comme on passe à côté du sens de la sexualité, ben on n'est pas satisfait, donc on veut recommencer. Et on rentre dans un circuit qui n'a pas de fin. Et qui, intérieurement, nous fait en plus perdre nos repères. C'est ce que dit très clairement Jean-Paul II. Quand on est pris par la passion, à ce moment-là, notre raison est dans la confusion. Et nous ne savons plus où nous en sommes. Si on aime, si on n'aime pas, si ça fait du bien, si ça fait pas du bien. On sait plus où on en est. On est dans le chaos. Or, vous savez que le propre de Dieu, c'est d'ordonner le chaos. À l'origine, il sépare la terre, le ciel, la lumière, les ténèbres. Il met de l'ordre dans le chaos originel. Et si vous sentez vos cœurs dans le chaos, demandez à l'Esprit Saint de venir mettre sa lumière. Et à ce moment-là, on commence à discerner ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Donc ça veut dire que les époux vont travailler, et déjà les fiancés peuvent le faire, à lire ensemble l'écho de leur tendresse. Qu'est-ce que ça a fait dans mon cœur ? Est-ce que je me suis sentie respectée ? Est-ce que ça m'a donné de la joie ? Lire les fruits de l'esprit, c'est une constante. Si nous sommes dans le chemin du Seigneur, les fruits de l'esprit sont là. La paix, la joie, l'enthousiasme. Si je ne suis pas dans le Seigneur ou qu'il y a eu quelque chose de pas juste, alors je suis dans l'amertume, la tristesse, le trouble, l'angoisse, je me sens sale. Comme ces filles qui nous ont témoigné aux Beaux-Arts, qu'elles avaient besoin de prendre 5 ou 6 douches le matin pour essayer de se laver de ce qu'elles avaient fait la nuit. Je vous souhaite pas d'arriver à ça. Parce qu'après, on perd même le goût de cette magnifique de ce magnifique langage que le Seigneur nous donne, de dire notre amour jusque dans notre corps.
C'est pour ça que cette lecture des fruits de l'esprit, cette lecture des fruits du cœur est très importante. On n'est pas en train de faire de la morale à deux balles. On est en train de vous inviter, de nous inviter, parce qu'on est tous concernés. Même nous, après 35 ans de mariage. À lire les fruits de notre sexualité. Je pense particulièrement à ceux qui s'adonnent à la masturbation ou à la consultation de sites ou d'images pornographiques. Simplement, vous invitez chacun qui a pu consulter, c'est la grande majorité ont consulté, après c'est les degrés d'intensité, mais en tout cas a eu connaissance, quel est l'écho que ça fait dans notre cœur? Ça peut soulager, ça peut exciter, ça peut attirer, bien sûr, ça fonctionne comme ça. Mais qu'est-ce qui reste derrière? Il reste une amertume. Il reste les dents qui grincent. Il reste les raisins verts. Et si jamais nous avons été profondément attirés comme une, quand même par une drogue, nous savons que c'est un chemin de mort et pas un chemin de vie. Et le Seigneur veut pour nous la vie. Nous vous interpellons vraiment chacun dans son face-à-face avec son âme, avec son cœur, pour ne juger absolument personne, parce qu'on est tous concernés et on est tous fracassés et on est tous malades d'amour. Mais de se rendre compte que ces chemins-là est un chemin trompeur. Et combien d'ailleurs de confidences nous sont faites ou sont faites dans les confessionnals, etc., de confessionnaux, de garçons ou de filles qui sont écœurés de leur comportement et qui, quelque part, sont écœurés par la sexualité. Disant, mais finalement, c'est que sale. Non. C'est béni. Simplement, il y en a un qui met un boxon colossal et qui nous met dans la confusion. Donc, lisons notre cœur. Choisissons la vie, pas la mort. Croyons vraiment que le Seigneur peut nous libérer. C'est cet évangile de salut, de la guérison, de la libération de la sexualité qu'on vient humblement, mais avec force, vous annoncer, vous confesser, pour que ce soit une grande espérance pour vous. Particulièrement pour ceux pour qui c'est tellement déprimant, où on était tellement blessé. Soyez vraiment nourris d'espérance. Je pense aussi aux filles qui sont devant tout cela, qui sont pétrifiées, qui se disent mais c'est affreux, il va falloir passer à la casserole. Qui n'en voient pas la beauté, qui disant c'est voulu par Dieu tout ça. Mais on comprend cette répulsion. C'est fortement compréhensible. Parce que on a l'impression d'être de la bidoche.
Je voulais parler aussi de ce texte de Tobie et Sarah. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire dans la Bible. Ce mystérieux démon qui aurait soi-disant possédé Sarah, qui faisait que les six maris qui l'ont épousé sont morts. Et arrive Tobie. Que fait Tobie? Avant l'union sexuelle, il se lève, il dit à Sarah, ma sœur, n'oublions pas que dans le couple, nous sommes d'abord frères et sœurs devant le Seigneur, et que ensemble, nous cheminons vers la sainteté. Donc, ma sœur, lève-toi, prions le Seigneur. Pourquoi a-t-il demandé la prière? Parce qu'il voulait purifier son cœur et que son intention dans la sexualité soit belle et qu'elle soit vraiment dans la volonté de Dieu. Et alors, il n'est pas mort, il a pu s'unir à Sarah et il n'est pas mort. Pourquoi les autres sont-ils morts? Parce qu'ils avaient désiré de façon impure Sarah, qui, nous dit-on, était une des plus belles femmes d'Israël. Ils l'avaient désirée comme un objet sexuel. Et alors, Dieu ne voulant pas qu'elle soit souillée, ils sont morts. Et qu'est-ce qui a appris à ces époux à s'unir saintement? Saint Raphaël, n'oubliez pas cet archange, c'est l'archange des couples et des fiancés. C'est l'archange qui combat pour nous, pour que nous apprenions à convertir nos corps et nos cœurs et à nous aimer mieux, de façon plus intense. Et donc Saint Raphaël est un ange accompagnateur sur le chemin. Et donc nos sexualités aussi sont une occasion de prière. Nous pouvons prier l'un pour l'autre, pour que ce langage des corps soit beau, qu'il soit juste et qu'il nous réjouisse. Et que nous trouvions petit à petit dans le combat, dans le labeur, dans la conversion progressive, une joie qui remplit l'âme, bien plus que ce que le monde peut proposer. Savez-vous, une des grandes surprises des journalistes anglais, quand ils ont fait une enquête sur la sexualité, le taux de satisfaction de la sexualité le plus élevé était dans les femmes chrétiennes. Ils en sont tombés par terre. Alors que par ailleurs, on sait que 30% des couples arrêtent de faire l'amour assez vite, tellement ils sont dégoûtés, tellement ils en ont marre de se battre pour ça. Gardons l'espérance. Le Seigneur veut faire de ce langage un lieu magnifique pour notre joie et pour sa gloire.
Bon, il est temps d'essayer de conclure. Cette conclusion, on l'a intitulée « Si jamais tu veux une sexualité belle et durable, alors accueille le Christ et celui qui l'a créé. » Bon, on va prendre une analogie, c'est pas à la mesure de tout ce qu'on dit, hein. Mais bon, si vous avez une Peugeot, vous la mettez à réviser dans un garage Peugeot, parce que c'est le Monsieur Peugeot, c'est celui qui a fabriqué les Peugeot. C'est pas Monsieur Mercedes. Mais si jamais j'ai une Mercedes, je vais au garage Mercedes, parce que c'est le créateur des Mercedes. Et il a pas la même technologie que Peugeot. On est d'accord? Ou en tout cas, je prends des risques. Si jamais je mets ma Mercedes chez Peugeot, je prends des risques. Eh bien, concernant notre sexualité, c'est à peu près pareil. Il vaut mieux s'adresser à l'auteur de la sexualité, c'est-à-dire Dieu lui-même, qu'à ses officines érotico-pornographicaux et tout ce que vous voulez, qui sont de très mauvais garages et de profonds menteurs. Donc c'est vraiment une invitation à aller changer les pièces défectueuses auprès du garage qui vous garantira les pièces d'origine. Sinon c'est de la contrefaçon. Et notre monde est un champion du monde de la contrefaçon de la sexualité. Vous avez compris qu'on n'est pas là pour réduire la joie, le désir, le plaisir, l'exultation, la durée, la croissance de votre vie sexuelle. On est là justement pour vous aider à y travailler. Et que si jamais vous prenez ce chemin-là, vous verrez combien votre sexualité sera tellement plus belle que ceux qui ne connaissent pas le Christ Sauveur, vivant, libérateur. Et vous comprenez que cet évangile est d'abord pour vous, d'abord pour nous. Mais vous imaginez ce que le monde attend et combien il nous envie et il vous enviera. Même ceux qui rejettent en disant tous ces machins, cathos et tout ça, le truc ringard, tout ce qu'on entend tous les jours sur la ringardise de l'Église. Là, nous avons un aimant extrêmement puissant. dans la joie de l'évangile, l'exhortation du pape François sur l'évangélisation, il nous dit tous, comme disciples missionnaires, soyez contagieux de Dieu. Contagieux. Voilà une matière où on peut être contagieux. Parce qu'ils imaginent les gens ne connaissent pas le Christ et n'y aspirent pas. Ils aspirent vraiment à aimer, à être aimés, à réussir leur couple, à avoir une belle sexualité, durable, intense. Alors, accueillez, vivez cet évangile d'abord. Soyez des femmes et des hommes libres, des couples libres. Et vous verrez qu'il y aura la queue à la porte de vos maisons et de vos appartements. Parce qu'ils vous diront, comment vous faites ? Ah, ils sont pas dans l'alcôve, hein, ils sont pas dans votre lit. Mais ils verront sur vos visages que vous faites bien l'amour. Que vous avez des mines réjouies. Pour que nos enfants nous voient heureux, c'est important de bien faire l'amour. En tant que parents. Et pas que les premières années de mariage, hein. Crescendo. Souvenez-vous. François a dit à la jeunesse à Rio, vous n'êtes pas fait pour des petites bricoles, vous êtes fait pour des grandes choses. L'évangile de la sexualité n'est pas une petite bricole, c'est une grande chose. C'est un immense cadeau que vous ne mesurez pas encore. Et vous ne pouvez sans doute pas l'imaginer. Parce que moi, dans mes rêves et dans nos rêves les plus fous, on pouvait pas l'imaginer. Et que cet évangile de la sexualité, on l'annonce, on le confesse depuis des années, et on va de découverte en découverte dans notre propre vie, dans notre propre relation. C'est Cana, le bon vin est pour la fin, y compris pour la sexualité.